C'est la revue donc Genèse, hein, dont le dossier est dirigé par Jérôme Cordoyès, qui est à ma gauche, et un de tes collègues que je ne connais pas, Monsieur Roux.
Sébastien
Roux, que je ne connais pas, qui est anthropologue aussi. Justement, j'ai cherché.
Socio-anthropologue.
Qui est socio-anthropologue, voilà. Et qui, donc vous avez décidé de faire un dossier qui est composé de, enfin on va y revenir, de plusieurs articles, quatre si je me souviens bien, sur l'interaction entre filiation et nation. J'ai trouvé que la problématique était très intéressante au regard de la manière dont cette naturalité de la famille et de la nation était aujourd'hui évoquée, opposée, au moment où justement la famille et la composition de la nation se renouvellent, ou en tout cas est supposée être menacée de la vie de certains. Donc cette première revue, ce premier dossier dans cette revue Genèse, donc qui sort en septembre 2017, s'interroge sur la manière dont cette interconnexion entre nation et famille est si importante, et essaye d'expliquer pourquoi aujourd'hui donc cette connexion, ce carrefour entre nation et famille est mobilisé par ceux qui s'opposent vraiment à ces changements, et comment ces deux institutions, nation et famille, sont chargées de dénoncer la vérité des identités, et comment finalement vous en venez, dans plusieurs des dossiers, en le déconstruisant de manière très intéressante, à montrer comment l'identité de la personne est finalement, comme vous dites, en reprenant une expression de Foucault, une morale de l'état civil, me parle beaucoup, et l'expression à laquelle je suis complètement d'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier dossier est plutôt sur ce qui explique aujourd'hui les oppositions, les tensions, les réticences qu'il pourrait y avoir au regard de ces deux institutions, filiation et nation, donc les oppositions qu'il y a aux transformations radicales à la fois de la filiation et de la composition du corps social. Le second dossier, qui est dans Ethnologie française, qui sort aussi la même année, qui prend un peu le même prisme, puisqu'il travaille, lui, sur la notion de corps reproductif, comme je le disais en introduction, en rendant hommage à Henrik, travaille moins sur les oppositions que l'évolution de la famille ou de la société suscite dans un certain, chez certaines personnes, mais montre comment, une notion auquel Henrik était particulièrement sensible, la manière dont les choses se rejouent dans la filiation et dans la parenté, la manière dont les tensions entre filiation et parenté sont finalement toujours présentes, et comment dans l'histoire de l'anthropologie, vous me corrigerez, les deux spécialistes qui sont à ma droite et à ma gauche, comment l'anthropologie a un peu oublié, en particulier lorsque Strathern, c'est comme ça qu'on prononce, hein, Strathern, a eu tant d'importance, comment elle a vraiment valorisé plus la notion de filiation, de transmission, de projet parental, et comment, à un moment donné, la corporéité, la proximité, la place du corps a été un peu oubliée. Et je crois que c'est justement toute l'importance des travaux qui ont été faits avec Henrik, avec toi et aussi avec toi, Henrik. Jérôme. Oui, ça arrive à tout le monde. Comment cette notion de corporéité, de proximité corporelle a été réappropriée, a été remise en tension avec la notion de filiation et de parenté. Voilà, donc c'est finalement pas un hasard que ces deux numéros soient sortis à peu près au même moment, à une époque où si je replace ça dans une perspective plus juridique et plus politique, au moment où commence à se discuter la révision de la loi de bioéthique, et donc on commence à discuter une étape supplémentaire dans la reconfiguration reconnue par l'État des familles, et où c'est aussi se rejoue, se rediscute la question de la place du donneur de gamètes, la place des donneurs des donneurs d'embryons, et où aujourd'hui on est encore, je pense, en plein dans ce débat. C'est les deux dossiers qui sont dans ces revues sont tout sauf périmés, puisqu'on est en plein aujourd'hui dans la discussion dont on a appris hier qu'elle serait reportée finalement de plusieurs mois à l'été, donc sans doute plutôt à la fin de l'année 2019, sur la manière dont la loi va consacrer ou pas ces reconfigurations familiales et quelle place elle va donner ou pas aux donneurs et dans quelle place elle va reconnaître à cette notion de corporéité.
Bon, il est épuisé chez l'éditeur. Donc,
je l'ai fait passer là,
tout simplement.
Il est là-bas.
Et je l'avais pas en bibliothèque sur Lyon.
Ah non, la représentation, où est-ce qu'il est ?
Oui, c'est le Genèse qui circule.
Ah, il tourne là-bas.
C'est la coordination d'un numéro de Genèse, en fait, donc, qui a été faite l'an dernier. Donc, j'ai commencé par présenter rapidement les auteurs. Donc, Jérôme Bourdier, vous faites partie d'un projet ANR. Justement autour des questions de parenté, de filiation avec d'autres collègues dans le cadre d'un projet qui s'appelle Étopol. Corrigez-moi si je me trompe. C'est là que j'ai pris la plupart des informations biographiques vous concernant puisque vous avez un carnet hypothèse qui résume ça très bien. Donc Étopol, c'est un programme financé par ANR, hébergé à Toulouse 2, Jean Jaurès, qui réunit 5 chercheurs dont 3 sont présents dans le dossier, donc Jérôme Courduriez, Sébastien Roux, Mélanie Gourarier, et il y a aussi Michèle Avilani et Anne-Sophie Vosari, qui elle est doctorante et qui travaille plutôt sur des questions de maternité et de venir à l'enfant au moment de la maternité. Michèle Avilani, rapidement, on est aussi sur des sujets qui ont trait à la médecine, au genre, à l'intersectionnalité. Donc vous êtes tous autour d'enjeux qui touchent au corps, à la procréation, et aux recompositions familiales, aux transformations de la famille contemporaine, et aussi, à mon avis, à l'importance de l'État et de comment l'État gouverne justement ces nouvelles façons de faire famille, non seulement au niveau national, mais au niveau international, et ça, j'y reviendrai. Donc, pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails, Jérôme Bourdès, vous êtes anthropologue, maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, vous avez fait une thèse sur la conjugalité gay en France, et vous travaillez d'une façon plus générale sur la parenté contemporaine et sur les effets des techniques de reproduction assistée. Donc j'ai peut-être dû citer rapidement comme ouvrage celui issu de votre thèse, j'imagine, de 2011, « Être en couple », entre parenthèses, gay, « Conjugalité et homosexualité masculine en France ». Et vous avez aussi dirigé des ouvrages collectifs en 2018 avec Isabelle Côté et Kevin Lavoie, « Perspective internationale sur la GPA ». En 2014, avec Agnès Fine, homosexualité et parenté. Donc, on voit que vous êtes sur ces domaines-là, voilà, concernant les couples gays et l'adoption dans le cadre d'un couple gay. Il y a une longue bibliographie qu'on pourra faire. On pourra y revenir après. Sébastien Roux, qui est le coordinateur du projet. Comme on disait tout à l'heure, lui travaille vraiment à l'intersection entre sociologie et anthropologie. C'est quelqu'un qui a fait une thèse sur le tourisme sexuel en Thaïlande et qui a interrogé la mondialisation des questions prostitutionnelles. Et qui ensuite s'est intéressé à la gestion institutionnelle des mineurs. Et dans le cadre de ce dossier-là, il a écrit un article sur les enjeux de l'adoption, et notamment de l'adoption en contexte international. Donc c'est quelqu'un qui est très attentif, en tout cas c'est ce que j'ai perçu de son texte, à toutes les questions de droit international et de coopération internationale entre les pays. Donc comment on fait quand on a des réglementations différentes dans des pays enfin voilà, ça c'est un enjeu sur lequel je voudrais revenir aussi. Je vais citer un ouvrage qu'il a coordonné, jugé, réprimé, accompagné en 2013 avec Didier Fassin et Yasmine Ouaga, qui a été traduit en anglais par la suite. Mélanie Gourarier, qui fait également partie de votre projet ANR, elle est docteure en anthropologie sociale. Elle a réalisé une thèse sur la masculinité, enfin les réseaux de sociabilité masculine de séducteurs de rue. Il y a un petit sociorama qui est paru qui raconte sa thèse. Et là, dans le cadre de ce dossier-là et dans le cadre du projet ANR, elle s'intéresse aux tests génétiques. Et en fait, l'accès au terrain a fait que ces tests génétiques concernent certes des tests de parenté ou ce qu'on appelle des tests de curiosité pour connaître son patrimoine génétique, mais aussi et surtout des tests qui permettent de procéder à des rapprochements familiaux dans le cadre des demandes dans le cadre migratoire. Donc ça, j'y reviendrai. Et enfin, vous avez une historienne. Voilà, donc là, on est plutôt sur des sociologues, anthropologues, mais vous avez également une historienne qui vient ouvrir le dossier, qui est Sylvie Steinberg, et qui est directrice d'études à l'EHESS, qui a travaillé sur le travestissement à la Renaissance et sur l'histoire de la sexualité, du corps, et dont l'article en particulier concerne le statut des bâtards au moment de la Révolution française. Donc d'une façon générale, dans ce numéro, la reproduction nationale, ce que vous avez voulu interroger, il me semble, c'est la façon dont les deux institutions, qui ne sont pas disjointes, mais qui s'articulent l'une à l'autre, que sont la nation et la famille, contribuent à produire des identités, notamment à travers le droit. Et vous l'avez décliné en fait en différents exemples. Donc je pense que comme il n'y a finalement que quatre articles, je vais passer un peu de temps sur ces articles, vous les présenter et que vous voyez bien le contenu. Et dans un second temps, j'essaierai de dégager des enjeux un peu transversaux qui m'ont semblé intéressants d'ouvrir à la discussion. Donc je disais, le premier article, c'est celui de Sylvie Steinberg, qui est donc historienne. Il s'intitule « Et les bâtards devinrent citoyens, la privatisation d'une condition d'infamie sous la Révolution française ». Donc ça concerne en fait le fait qu'au moment de la Révolution, donc en 1793, les bâtards acquièrent un nouveau statut. Ils peuvent désormais être reconnus par le père. Et donc, à partir de la loi du 12 Brumaire de l'an 2, c'est-à-dire le 2 novembre 1793, ils peuvent même prétendre à la succession au même titre que les héritiers. Et en fait, deux ans après, à partir de 1795, on a un retour en arrière sur cette législation qui réduit complètement les droits des bâtards, mais juste en termes d'héritage familial. Mais ce qui a été enlevé, c'est l'infamie qui caractérisait le statut de bâtardise. Et donc, du coup, cet article-là, il a pour but de montrer comment, justement, on est arrivé à cette légalisation révolutionnaire du statut des bâtards, et en même temps montrer que cette législation n'était que partiellement favorable, et ce qui explique que le retour en arrière était déjà en germe dans la loi révolutionnaire. Donc, elle procède en montrant d'abord que la discussion sur comment expliquer l'infamie des bâtards, comment expliquer qu'à ces bâtards ne soient pas vraiment reconnus. Alors, ce n'est pas tant des droits légaux que des droits sociaux, l'accès à certaines professions. Si on devait le caractériser dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on dirait que c'était des personnes qui subissaient une discrimination. Comment expliquer ça? Et alors, elle travaille sur archives et elle s'intéresse en particulier à un concours, comme ça se faisait à l'époque, qui a été proposé par l'Académie de Metz en 1787, donc quelques années juste avant la Révolution, dont le titre était « Quels seraient les moyens compatibles avec les bonnes mœurs d'assurer la conservation des bâtards et d'en tirer une plus grande utilité pour l'État ?» Donc il y a un double objectif qui est à la fois d'assurer la sécurité de ces enfants qui étaient des enfants plus ou moins délaissés, mais aussi de faire en sorte que l'État puisse en tirer un bénéfice en leur accordant un véritable statut. Donc je passe assez vite sur les débats, mais en gros il y a Robespierre qui se distingue et la personne qui gagne le premier prix de ce concours s'appelle Jean-Baptiste de Boumard. Et ils essaient de réfléchir tous les deux à l'origine de l'infamie et essayer de montrer d'où vient cette infamie. Pour les uns, ça vient soit de l'Église, qui refusait de reconnaître les bâtards et de leur accorder des droits, soit pour Boumard, de l'instauration de la propriété, qui fait qu'en fait, il fallait transmettre au fils légitime et qu'on ne pouvait pas fractionner les droits de succession. Mais donc, et ils avancent des propositions justement pour que ces personnes-là puissent avoir accès à des droits qui, avant la Révolution, ne sont pas du tout imaginables. Et en fait, ce qui se passe au moment de la Révolution, c'est qu'on est dans un contexte d'abolition des privilèges. 1790, abolition du droit d'aînesse, inscription du mariage civil dans la Constitution en 1791. Si on considère aussi le versant pénal du droit, c'est le moment où on arrête de marquer au fer pour les peines, les criminels. Et donc il y a vraiment cette idée de la même façon qu'on ne va plus marquer les criminels, on ne va plus marquer les bâtards et stigmatiser les bâtards. Et c'est ce qui conduit à cette double loi, la loi du 12 Brumaire de l'an 2 et le décret du 4 juin 1793. Mais quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, cette sorte d'ouverture des droits des bâtards passe par plusieurs conditions. D'abord, elle s'appuie sur le fait que ce n'est pas tous les bâtards, c'est seulement les bâtards qui ont été reconnus par le père. C'est-à-dire qu'on considère que la femme est mère par nature parce que c'est celle qui accouche. D'ailleurs, on verra que ça a une grande importance dans la question de la GPA aussi. Par contre, le père, et c'est ça qu'on va faire, auquel on va accorder la primauté, le père peut affirmer sa parentalité et c'est pensé sur le principe de l'affirmation de la volonté. et d'une contractualisation. Donc c'est ce double aspect-là. Je passe un peu sur d'où ça vient, du courant naturaliste, tout ça, on pourra y revenir après. Mais c'est l'idée qu'on bâtit une législation qui favorise le droit des pères dans un contexte où ce qui prime, voilà, c'est l'affirmation par le père de la volonté de voir ses bâtards hériter ou non. Et très vite, en fait, donc dès 1795, il va y avoir un retour en arrière. Alors, qui s'explique en partie par le contexte révolutionnaire, c'est la fin de la Terreur. Alors, c'est une période que moi, je connais assez mal, mais qu'on explique en partie par la réaction thermidorienne, c'est-à-dire qu'en gros, le moment de la Convention, le moment du Comité du Salut Public, c'était un moment de très grande innovation et de grande rupture, et qu'il y a eu une sorte un peu de panique, enfin, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais de panique morale par rapport à toutes ces nouvelles lois qui a conduit à un retour en arrière. Mais ce qu'essaie d'expliquer Sylvie Steinmark, c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est que déjà dans les débats au moment de la Terreur, il y avait une forme de frilosité, il y avait un souci de respecter les bonnes mœurs, de ne pas faire exploser le mariage, qui était vu comme un garant de l'équilibre de la société. Et qu'elle montre, et c'est en ça qu'elle parle, c'est pour ça que le titre de l'article, c'est la privatisation de la condition de bâtarde, c'est qu'on assiste à ce moment-là à une partition entre la sphère publique d'une part et la sphère privée d'autre part. C'est-à-dire que finalement, ces bâtards qui, en 1793, pouvaient hériter comme les autres, dès 1795, alors déjà, on n'a pas réussi à mettre en place ça très concrètement. Enfin, la loi était très difficile à mettre en place et elle est très vite révisée. Et ils peuvent hériter que de moitié s'il n'y a pas d'enfants légitimes et que du tiers s'il y a des enfants légitimes qui passent, que du tiers de la part qui leur reviendrait s'il y a des enfants légitimes. Donc du coup, ce qu'elle montre, c'est qu'on a supprimé cette forme de stigmatisation ou d'infamie concernant les bâtards, on leur a accordé une forme de reconnaissance publique. On a arrêté la discrimination et la discrimination, mais pour la ramener dans le cadre de la famille, où les bâtards ont toujours en fait une situation inférieure, de la même façon que les femmes dans la famille ont une situation d'infériorité, elles n'ont pas accès aux droits civiques, mais en considérant que c'est une inégalité qui est bonne pour l'ordre social et qui produit d'une façon plus générale le bien commun. Et donc, les droits de succession ont été limités non seulement à une minorité de bâtards, mais aussi à une proportion beaucoup plus faible. Et c'est en cela qu'elle montre que cette infamie des bâtards n'est plus publique, mais relève maintenant du domaine privé, et a supposé en fait, de parvenir à faire cette partition entre ce qui relève de la reconnaissance de droits civiques publics et la reconnaissance du privé. Jérôme Pourdurias, dans votre article, donc la lignée, la nation, état civil, nationalité et gestation pour autrui, vous comparez à un moment donné le statut des enfants nés par GPA à l'étranger à suite des bâtards de la Révolution. Donc là, vous vous penchez sur le cas de parents ayant eu recours à une GPA à l'étranger et se posant la question de la possibilité d'obtenir des papiers français pour leurs enfants. Donc là, comment ça se passe en général ? En général, quand on a des enfants qui naissent à l'étranger de parents français, il suffit de transcrire l'acte de naissance au service de l'état civil de Nantes. Et normalement, en fait, il y a très peu de formalités, ça se fait assez bien et assez automatiquement. Et là, on se retrouve confronté à des parents qui ont des actes de naissance établis dans les pays où ils ont eu recours à la GPA. Ces actes de naissance sont parfaitement en règle dans les pays. Donc du coup, théoriquement, il devrait pouvoir y avoir une transcription. Sauf que comme il y a suspicion de GPA, donc suspicion de fraude, et que la GPA est clairement interdite depuis 1991 par la Cour de cassation et depuis 1994 dans le Code civil, il y a une forme de non-traduction et de non-établissement d'actes de naissance français qui aboutit à la non-délivrance du coup de papiers d'identité français. Et donc ce que vous montrez d'abord, c'est que le fait de ne pas avoir cette... Enfin, on est vraiment là au cœur de l'articulation entre famille et nation. C'est-à-dire que normalement, l'appartenance nationale se transmet par la famille. Et ici, on a une reconnaissance de la filiation, c'est-à-dire qu'on dit cet enfant est l'enfant de ces deux personnes, mais il n'y a pas une reconnaissance, vous distinguez le terme filiation en anglais, et descent. Et descent, on n'a pas la reconnaissance de son inscription dans la nationalité, et donc il y a une forme de rupture de la filiation, au sens où on ne transmet pas à ses enfants sa nationalité. Donc vous revenez d'abord sur cette incomplétude de la transmission, enfin vous revenez d'abord sur le fait que la GPA est considérée comme une technique de reproduction assistée par l'OMS, mais elle n'est pas considérée comme telle en France. Et donc en fait on assiste vraiment à un conflit, à ce niveau-là. Et vous montrez également qu'en fait, la parenté effective, là, parce que Florence Weber appelle la parenté pratique, la parenté quotidienne, elle fait absolument aucun doute, ni pour les personnes qui ont recours à la GPA, donc pour les parents de fait, ni pour la femme qui a porté les enfants. Enfin, personne n'a absolument aucun doute, il n'y a pas d'ambivalence. En revanche, légalement, il y a des ambivalences. Et du coup, les personnes qui demandent la transcription de l'acte de naissance à l'état civil français, ben voilà, se heurtent à des formes de difficultés importantes. Alors, vous avez, je n'ai pas précisé le terrain, mais vous avez travaillé auprès de... vous avez interrogé des familles, vous avez aussi interrogé des magistrats, et en particulier le magistrat, le procureur qui est saisi, en fait, dans le cas où il y a une suspicion de GPA. Et jusque-là, enfin, jusqu'en 2015, quand il y avait une suspicion de GPA, on pouvait refuser la transcription au motif que ces personnes ont fraudé, tout simplement, c'est-à-dire qu'elles sont allées faire à l'étranger quelque chose qui est interdit par le droit local. Donc, pourquoi on leur accorderait le bénéfice du droit local? Et en fait, il y a plusieurs cas. Donc, vous parlez 2014, l'affaire Labassé-Manson vs France, et vous dites que la Cour européenne des droits de l'homme tranche en faveur du droit des enfants au respect de leur vie privée. Il y a un même type d'affaire en 2016 qui est l'affaire Foulon et Bouvet. Donc, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme tranche en faveur du droit des enfants à avoir cette inscription dans la lignée. Et j'imagine que ça a fait jurisprudence et que donc, désormais, on ne peut plus utiliser l'argument de « ses parents ont fraudé, donc on refuse l'inscription à l'état civil français ». Et c'est là que c'est extrêmement intéressant, et c'est le discours du procureur que vous analysez très bien. Le procureur explique qu'il y a un souci de maintenir d'abord l'ordre moral. Ça, c'est une chose, mais ce n'est pas forcément inscrit dans des textes. Et donc, l'argument sur lequel il se met à s'appuyer à partir du moment où on ne peut plus s'appuyer sur « il y a fraude », puisque la Cour européenne des droits de l'homme a dit « oui, il y a fraude », mais la fraude est moins importante que l'absence de reconnaissance et l'intégration de ses enfants. Et c'est là qu'on revient aussi sur ce que je disais précédemment, sur l'importance dans le droit français que la femme qui accouche est la mère. En fait, il y a une disposition qui fait qu'on peut refuser la traduction au motif que l'acte de naissance établi à l'étranger ne correspondrait pas à la vérité des faits, au sens où la femme qui a accouché ne serait pas portée à cet état civil. Donc ça, il y a différentes législations dans différents pays, on pourra y revenir. Mais il y en a où on peut mettre la mère qui a accouché, la femme pardon, qui a accouché, et il y en a d'autres où on peut mettre directement les parents intentionnels, que ce soit un couple gay ou un couple hétérosexuel. Mais dans le cas justement où cette femme qui a accouché n'est pas mentionnée, il peut y avoir une suspicion française disant pour en France, dans le droit français, celle qui accouche est la mère, donc si ça c'est pas mentionné à l'état civil, nous on considère que ça ne traduit pas la vérité des faits. Le problème, c'est que ces actes-là sont légaux, ils correspondent au droit des pays. Donc, c'est faire passer le droit français comme supérieur au droit des autres pays où les actes de naissance ont été établis. Donc, en fait, ce que vous montrez, c'est que finalement, la transcription, ce que j'en ai compris, en tout cas, corrigez-moi, la transcription de ces actes n'a absolument aucune raison d'être refusée aujourd'hui, pour aucun motif. Et d'ailleurs, vous le dites très bien, on ne leur oppose pas de refus, juste on ne reçoit jamais de réponse. Enfin, donc on a une espèce de lenteur de fait. Sauf que là-dedans, il y a des enjeux, et il y a des enjeux très forts pour les familles, qui ne sont pas tant finalement des enjeux de pouvoir circuler dans l'espace, parce que finalement, il y a peu d'apatrides, mais plutôt des enjeux de reconnaissance symbolique et d'intégration à la nation et à la lignée, et de transmission, déjà d'héritage, de transmission matérielle, mais aussi de transmission symbolique. Et ça j'y reviendrai dans le commentaire. Je vais être un peu plus rapide sur l'article de Mélanie Gourarier, « Faire la frontière dans les murs du laboratoire, destin migratoire et usage de l'ADN aux États-Unis ». Donc là, c'est un début d'enquête, j'imagine, très ethnographique, qu'elle a menée pendant 4 mois au DNA Lab, qui est un petit laboratoire de tests génétiques dans un quartier du sud de Brooklyn, donc avec une population plutôt immigrée, où on réalise des tests génétiques. Et c'est un laboratoire qui a été labellisé par le gouvernement des États-Unis pour pouvoir délivrer des tests génétiques dans le cas des demandes de regroupements familiaux. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous demandez un regroupement familial pour des personnes étrangères, vous faites un test génétique qui prouve que vous êtes bien parent et hop, ça accélère les procédures et vous pouvez immigrer beaucoup plus rapidement. Et alors, ce qu'elle montre, c'est qu'en France, il y a eu un débat autour de est-ce qu'on fait des tests génétiques pour permettre les regroupements familiaux. Et le débat a été assez virulent en France et a été tranché en disant non, Ce qui fait la parenté, c'est pas la biologie, c'est pas la filiation biogénétique, c'est l'état civil, et donc on peut pas se fonder là-dessus pour valider ou non un regroupement familial. Aux États-Unis, oui, il n'y a pas de législation dessus. Pour les personnes qui font la promotion des tests ADN, c'est vu, déjà, c'est lucratif et commercialement, il y a un intérêt, mais c'est aussi vu comme une solution très pratique. Pour des personnes d'associations, notamment, elle mentionne une femme qui travaille dans une association d'aide aux migrants, elle trouve aussi que c'est formidable parce que ça offre une opportunité aux migrants de pouvoir migrer plus rapidement. Mais en fait, ce que Mélanie Gouarier montre immédiatement, c'est que bien évidemment, pour ces personnes, ça ne leur est pas présenté comme une ressource à leur disposition, mais comme quelque chose qui correspondrait à la figure du bon immigrant qui voudrait bien se plier à ces tests génétiques pour montrer patte blanche, en quelque sorte. Alors, je passe toute la revue de littérature qu'elle fait sur la suspicion autour de l'étranger, etc. Mais ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, on a là un dispositif de contrôle social. Donc, quand effectivement il y a concordance des tests ADN et qu'on a prouvé biologiquement qu'on était bien la fille de son père, etc., les gens sont plutôt contents, le rapprochement est accéléré, tout va bien. Mais justement, dans les cas où il n'y a pas de correspondance, ce qui arrive, alors même que juridiquement l'état civil dit qu'il y a une filiation, alors même qu'on aura partagé 30 ans de sa vie avec une personne, le regroupement peut être refusé au motif qu'il n'y a pas de lien génétique. Et j'y reviendrai là aussi, mais ce qui est extrêmement intéressant et qu'à mon avis, elle n'est pas allée tout à fait au bout de cette analyse-là, elle montre en fait le positionnement de la personne qui tient le laboratoire, qui s'appelle Jacob, qui est un Français juif orthodoxe émigré, et qui en fait a tendance à minimiser l'importance de l'ADN dans le cas des tests de paternité, en disant « oui, mais vous savez, les parents ressemblent à leurs enfants, mais c'est l'éducation, c'est pas du tout les gènes, parce que justement il est anti-avortement ». Et qu'à l'inverse, dans le cas du regroupement familial, comme il est mandaté par l'État, si les tests ne concordent pas, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre enfant, ce n'est pas votre enfant, point. Et là, à mon avis, mais je vais y revenir dans la discussion, je pense que Mélanie Gouarier n'est pas allée tout à fait au bout d'une critique qu'il y avait à formuler en termes d'analyse des dispositions des acteurs, etc. Et enfin, Sébastien Roux, l'état des origines, histoire adoptive, conflit biographique et vérité passée, revient en fait sur la question de l'adoption et sur le consensus actuel qu'il y a autour de l'adoption, qui est qu'il faut absolument parler aux enfants, il faut produire un récit sur les conditions de leur adoption, il faut offrir la possibilité d'accéder à ses origines, non seulement à travers le discours que fournissent les parents, mais aussi à travers un État qui est capable d'assurer ce qu'il appelle il s'inspire de Dominique Mémie pour parler de la traçabilité des individus, donc qu'il puisse dire aux enfants à qui ils ont été adoptés, qui était la première famille, d'où ils venaient. Donc je passe rapidement sur l'omniprésence de ce discours-là. J'en viens plutôt aux faits et à la loi. En gros, années 50-60, ce qu'on met en place, c'est plutôt une politique du secret. Donc 53 et 59, c'est la législation de l'anonymat de l'accouchement sous X, et 1966, la mise en place de l'adoption plénière. Et à partir des années 90, cette possibilité pour les géniteurs qui abandonnent leur enfant ou pour les personnes qui abandonnent leur enfant, cette possibilité de rester anonyme ad vitam aeternam disparaît, ou en tout cas s'effrite peu à peu, justement face à la mobilisation notamment des adoptés devenus grands, qui prônent un droit à connaître ses origines pour des raisons psychologiques, pour des raisons intimes de définition de l'identité. Alors, il prend un exemple, qui est l'exemple de Samira, et en fait, je n'ai pas précisé le terrain, mais il y a une enquête en Éthiopie, dans différents orphelinats d'Éthiopie, l'Éthiopie étant un des pays les plus défaillants en termes d'adoption, parce que tout ça s'inscrit dans le contexte de la Convention de l'AE de 1993, qui stipule les conditions de la bonne adoption internationale, où il faut en fait que l'enfant d'abord ne soit pas adoptable par la famille proche, ne soit pas adoptable dans le pays, et ensuite seulement, dans un troisième temps, on peut le proposer à l'adoption internationale. Et en fait, l'Éthiopie n'est pas signataire, et au-delà de ça, il y a des personnes en fait qui placent leurs enfants à l'orphelinat en pensant les récupérer après, et en fait elles sont adoptées. Il y a énormément de dysfonctionnements. Et ce dont Sébastien Roux s'aperçoit au cours de son enquête, c'est que ces dysfonctionnements sont liés en partie à l'incapacité de l'État à établir des états civils corrects. C'est-à-dire qu'on a des papiers qui attestent, mais ces papiers-là ne correspondent pas à la vérité des faits. Et c'est là que j'en viens à la discussion. Alors, juste mon ordi qui s'est éteint. Il y a trois points, peut-être quatre, moi, qui ont soulevé mon attention. Le premier, c'est la prédominance de la biogénétique dans la définition de ce qui fait famille et la façon dont les États se positionnent par rapport à cette biogénétique. Le second point, c'est la capacité de l'État à imposer son autorité et à assurer de l'authenticité et de la véracité d'un État civil. Le tout dans un contexte qui aujourd'hui est mondialisé et qui fait intervenir des acteurs à plusieurs échelles. Donc je commence par la prédominance de la biogénétique. Vous êtes dans plusieurs articles, vous citez justement ce que j'ai déjà cité, la façon de définir la parenté de Florence Weber, donc, qui distingue la parenté pratique, la parenté biogénétique et la parenté juridique, et la primauté qu'on va accorder à tel ou tel type de relation de filiation selon le contexte. Et en l'occurrence, cette forme de biologisation et d'importance du substrat biologique dans la définition du faire famille, dans la définition des identités, elle traverse tous les textes, que ce soit au niveau de l'importance pour les individus eux-mêmes de s'inscrire dans une lignée génétique, ou que ce soit dans la capacité de l'État à reconnaître les individus. Pour ce qui est des individus eux-mêmes, c'est très présent dans votre texte, Jérôme Courdriès, de couples gays ou hétérosexuels qui veulent des enfants à qui ils transmettront leur sang et leur gène. Et ça, dans les discours, c'est absolument prédominant. De la même façon, pour les adopter, il peut y avoir cette idée de retrouver sa famille biologique, véritable. Donc, dans la définition de soi, ce rapport au corps et à la biologie est extrêmement important. Et c'est important également pour l'État, puisque c'est ce qui va permettre de reconnaître ou non des liens de filiation dans le cas, et qui va complètement déterminer la trajectoire migratoire dans le cas étudié par Mélanie Gourari, en fait. Sauf que tout ça, on voit bien que c'est lié à la capacité de l'État à poser des définitions, à contrôler sa population, à dire ce qui prime. On peut comparer la législation française, justement, qui a interdit le regroupement familial sur la base de critères génétiques par rapport à la législation américaine qui est silencieuse là-dessus, donc on peut à peu près tout faire. Donc ça met en jeu la puissance de l'État dans sa capacité à définir les identités. C'est extrêmement présent dans le texte de Sébastien Roux, donc sur le cas des adoptions internationales, où on voit qu'en fait, ce qui est reproché à l'Éthiopie, d'ailleurs l'Éthiopie, je ne l'ai pas précisé, mais en 2016, le Quai d'Orsay en France décide qu'on ne fera plus d'adoption en Éthiopie parce que, si je le dis vite, ce qui s'est passé là-bas est un peu trop sale et donc on préfère qu'il n'y ait plus du tout d'adoption parce que ça ne respecte pas les critères internationaux. Et en fait, le problème de l'Éthiopie, et c'est ce dont Sébastien Roux s'aperçoit dans son enquête, c'est qu'on est face à un État et à une puissance publique extrêmement corrompue et qui n'est pas suffisamment institutionnalisé pour permettre la reconnaissance des enfants et l'établissement d'états civils qui soient valables et crédibles et qui correspondent à la réalité, en particulier dans les campagnes rurales où parfois les enfants sont enregistrés des années après leur naissance et où du coup on n'a plus la... Enfin, on ne sait pas exactement si ce qui est produit à l'état civil correspond à la réalité des faits. Et c'est le même type de suspicion dans le cadre des tests ADN. Parce que si on reprend les personnes en demande de migration que Mélanie Gourari étudie, ce sont des personnes qui ont un état civil. Un état civil qui a été produit par des pays, dans des règles qui respectaient les règles de ces pays. Et en fait, on s'aperçoit que ces tests génétiques sont demandés, pas à des Blancs, sont demandés aux Latinos, aux Africains et à certains pays d'Asie. Donc là, et c'est là aussi quand je dis que peut-être on n'est pas allé au bout de la critique, est-ce qu'il y a une forme de racisme d'État ? Enfin, je pense que c'est des questions qu'on peut soulever, mais qui fait que certaines populations en particulier sont soumises aux tests génétiques parce que les États-Unis remettent en cause la capacité même d'autres États, en voie de développement, anciens pays colonisés, à produire eux-mêmes des documents d'état civil crédibles. Donc on repasse par la biologie pour assurer, enfin pour pallier au manque de crédibilité de la législation des États. Et cette question de la crédibilité, elle concerne, ou en tout cas de la hiérarchie des normes nationales sur le plan international, Elle concerne pas seulement la capacité à établir un état civil, elle concerne aussi le système juridique dans son ensemble. Et là, on revient à la GPA. C'est-à-dire qu'en France, on a un État qui se positionne en disant notre façon à nous de produire un état civil est supérieure, ou en tout cas doit valoir avant la façon dont d'autres États produisent un état civil. Et il y a cette forme-là de hiérarchie. Et ça m'amène à mon troisième point, qui est comment penser ce rapport à la puissance publique dans un contexte de mondialisation. Et donc, c'est non seulement la hiérarchie entre les normes des États ou la possibilité d'avoir des conventions internationales qui seraient ratifiées par tout le monde, mais c'est aussi l'arrivée de nouveaux acteurs, la possibilité d'une mobilité croissante. Concernant la GPA, par exemple, c'est la possibilité pour des familles riches, enfin en tout cas aisées, une classe moyenne ou supérieure, d'aller à l'étranger, avoir recours à un service auquel ils n'ont pas accès en France. Dans le cas des tests génétiques pour connaître ses origines, c'est interdit en France par la loi, mais avec les réseaux sociaux et Internet, on a finalement la possibilité de commander son test en ligne et de l'envoyer en ligne par la poste, ce qui fait que finalement la législation du pays importe peu puisqu'on a la possibilité d'acheter ce service à l'étranger. C'est aussi dans le cas des adoptés l'existence de réseaux sociaux mondialisés qui font qu'on peut passer par les réseaux sociaux pour retrouver une éventuelle famille qui nous resterait dans le pays d'accueil, c'est le cas des Éthiopiens. Donc ça pose la question d'une hiérarchie des normes et des valeurs, non seulement au niveau de la production de l'état civil dans chaque état, mais aussi d'autres acteurs qui ne sont pas seulement, à mon avis, des acteurs étatiques. Et enfin, dernier tout petit point, c'est juste une question que je me suis posée, c'est une question méthodologique en fait, de la possibilité de produire une critique lorsqu'on a affaire à des terrains ethnographiques dont on est très proche. Parce que je pense en particulier à Mélanie Gourarier et à Sébastien Roux, qui ont tous les deux un très beau terrain, sûrement très difficile à mettre en place, avec une longue présence sur le terrain, avec des descriptions très fines et très minutieuses des situations. Enfin, là, je vous encourage vivement à les lire. On a vraiment une analyse super fine de cas particuliers qui serait trop long à résumer ici. Mais aussi, peut-être, que ça empêche une forme de distance critique. En tout cas, pour Mélanie Gourarier, je l'ai beaucoup senti. Donc, sur le cas de... elle l'appelle Jacob dans le texte, qui est la personne qui tient le DNA lab et qui dit, dans le cas d'un test de paternité, la génétique, on s'en fiche, ce qui est important, c'est le faire famille. Et qui dit, dans le cas du regroupement familial, moi, je suis un petit soldat au service de la puissance publique. Et je dois faire respecter l'autorité de la puissance publique. Si les tests génétiques disent que c'est pas votre fille, c'est pas votre fille, point. Et en fait, moi, j'aurais aimé qu'elle creuse beaucoup ça par rapport à la socialisation de ce Jacob, qu'elle montre en fait qu'il y a aussi une forme de xénophobie, qu'on soit dans un discours un peu plus critique qui est un petit peu en surface. Et ça m'a fait un tout petit peu le même effet sur... à un moment donné, Sébastien Roux décrit une scène absolument affreuse d'un médecin face à un couple de parents qui ont un petit enfant adopté qui a 4 ans, qui fait des crises insupportables. Et le médecin se met à faire la morale au petit en lui disant « Mais ton papa et ta maman... Tu avais un papa et tu avais une maman, elle t'a abandonné parce qu'elle... Ce n'est pas parce qu'elle t'aimait pas, maintenant tu as une nouvelle famille. » Et qui se met en fait à expliquer l'histoire d'une façon extrêmement violente de la famille à ce petit garçon. Et là aussi, on sent qu'il donne la scène à voir. Et puis, il y a une espèce de féminisme sur... je ne sais pas comment c'est dit, mais là aussi, il me semble qu'on peut entrer dans un discours un peu plus critique sur les acteurs. Voilà, mais ça, c'est une petite remarque, parce que je pense qu'il faut quand même saluer tous ces terrains qui sont... on est à chaque fois à la frontière de ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas, qui sont, à mon avis, très difficiles d'accès, et où on a vraiment... j'ai trouvé un très beau travail de terrain. Donc, pour conclure, je pense que vraiment, ce qu'il faut en retenir, c'est cette réflexion vraiment poussée sur l'articulation entre famille et nation, et sur la façon dont l'État affirme son autorité à travers sa capacité à non seulement établir la famille comme telle, mais à la produire, la garantir, la faire durer dans le temps, non seulement au niveau national, mais aussi avec des enjeux internationaux.
Merci pour cette lecture fine. C'est quelque chose d'étrange, en fait, d'être présent face à quelqu'un qui rend compte d'un travail à la fois collectif et personnel. Alors, quand Dominique m'a invité à participer à ce séminaire, elle ne m'a pas donné de consigne. Donc je me doutais bien qu'il allait falloir que j'intervienne à un moment donné ou à un autre, mais je ne savais pas de quelle manière, donc je le découvre en même temps que je suis là. Je ne pourrais pas répondre sur... Bon, c'est un ouvrage collectif. Enfin, c'est un numéro collectif d'une revue. Je ne pourrais pas répondre précisément pour les travaux de chacun des collègues, parce que, évidemment, chacun est maître de son propre travail. Et je ne pourrais pas dire autre chose que je ne connais pas l'infratexte, quoi. Je ne connais pas... Alors, j'ai des rapports personnels avec eux. Je sais des choses qu'ils n'ont pas racontées, peut-être, dans leur texte. Hein, mais je ne pourrais pas... Il n'y a pas vraiment de questions, mais je ne pourrais pas répondre en détail, en tous les cas, à certaines de vos observations. Peut-être que je peux dire deux mots d'abord du projet de numéro, de la manière dont il s'est construit. Bon, l'idée, c'est une idée au départ de Sébastien Roux qui m'a sollicité pour voir si je voulais faire ça avec lui. On était dans le même projet ANR, qui s'intéresse à ce que lui appelle, à la suite de Nicholas Rose, ce sociologue américain, l'étau politique ou les étaux politiques. Un objet, moi je ne suis pas un grand théoricien, hein, je suis plutôt, j'essaie d'être un bon ethnographe, hein, de temps en temps un bon ethnologue, hein, et quelquefois un pas trop mauvais anthropologue en lisant ce qui se passe ailleurs dans d'autres sociétés ou dans l'histoire, pour mettre un peu en perspective. Hein. Mais au départ, le concept d'étau politique, je le saisissais mal, hein, pour être tout à fait honnête. Je voyais bien évidemment de quoi il s'agissait que lorsqu'on parlait de biopolitique. Hein, ça, on était un certain nombre à avoir déjà lu Foucault et ses suiveurs. Mais enfin, le concept d'étau politique, c'était autre chose. Hein, et je crois que ce que je vous dis là, c'est certainement une expérience largement partagée dans le groupe de 5 personnes qui travaillaient avec Sébastien dans ce projet. On s'est familiarisé avec ce concept au fur et à mesure qu'on avançait. Donc il a réuni autour de lui une équipe, c'est un projet jeune chercheur de l'ANR, il a réuni autour de lui, comme dans tous les projets jeunes chercheurs, une équipe resserrée et des gens plutôt qu'il connaissait, avec qui il était déjà en lien, à la fois personnel et intellectuel. Et il a, je crois, pas mal composé l'équipe dans le sens où c'était des terrains, j'imagine qu'il a réfléchi à ça, des terrains complémentaires, hein. Des terrains à la fois différents et qui pouvaient se faire écho, parce qu'ils analysaient à la fois des contextes et des questions qui étaient distinctes les unes des autres. Alors, Michela Villani, qui avait entrepris dans le cadre de ce projet un terrain sur l'AMP en Italie, et qui vient de la sociologie du genre, qui avait fait une très belle thèse sur l'excision en particulier, et les mutilations féminines. Anne-Sophie Vosari, qui est une doctorante, qui j'espère va soutenir bientôt, et qui travaille sur l'expérience maternelle, hein, grosso modo, en particulier dans des situations problématiques, hein, et sur la manière dont se construit la maternité au moment de l'accouchement et dans les suites. Hein. Et elle s'intéresse en particulier, dans le cadre de son terrain, à l'accompagnement institutionnel de cette construction de la maternité, à la fois de la part des sages-femmes, mais aussi des travailleurs sociaux. Mélanie Gourarier, donc, vous l'avez dit, qui vient de l'anthropologie du genre, hein, qui avait beaucoup travaillé sur la masculinité, effectivement, et qui, à la fin, après sa thèse, hein, pas tout de suite après, hein, mais dans les années qui ont suivi sa thèse, dans les années qui ont suivi sa thèse, elle s'est intéressée très rapidement à la paternité, puisqu'elle avait travaillé, comment s'appelaient ces mouvements de pères, hein, vous savez, ceux qui montaient sur des grues et qui défendaient les droits des pères face aux droits des mères, ouais, dont ils supposaient qu'ils étaient... oui, voilà, ce genre de... Je ne dis pas qu'elle a travaillé auprès de cette association, mais elle a fait du terrain auprès de collectifs, en quelque sorte, de pères qui se sentaient particulièrement maltraités, notamment en matière judiciaire, après des séparations conflictuelles avec la mère de leurs enfants, etc. Et qui là, toujours dans... Finalement, elle poursuivait d'une autre manière son travail sur la paternité, en s'intéressant cette fois-ci à la question des tests ADN de paternité. C'est en quelque sorte une excroissance du projet qu'à l'époque elle construisait pour être candidate au CNRS. Hein. Finalement, elle a fini par être recrutée au bout de plusieurs tentatives. Et donc, finalement, ce projet-là de travailler sur les tests ADN, qui sont des tests ADN de paternité, mais qui surtout sont des tests ADN génétiques mobilisés dans un contexte de migration et de rapprochement familial aux États-Unis, elle a trouvé que là, il y avait matière justement à explorer d'une autre manière les questions qu'elle s'était posées. Et puis il y avait moi sur la gestation pour autrui. Voilà, bon, j'y reviendrai plus tard. Donc finalement, on s'est familiarisé petit à petit au fil de l'avancée de nos terrains et surtout de nos discussions collectives. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet ANR qui se termine dans quelques mois, c'est le souci de Sébastien Roux de favoriser des rencontres collectives régulièrement. Et là, comme il y a pas mal de jeunes chercheurs, c'est aussi, je pense, un conseil utile, enfin je pense une expérience utile. La question qui se pose tout de suite dans un projet collectif, c'est de savoir comment des enquêtes qui sont par définition des enquêtes personnelles, des travaux de recherche personnels, peuvent dialoguer, poursuivre parfois des mêmes objectifs, comment ils peuvent se retrouver. Et ça, c'est jamais très évident à faire. Et quand on candidate à un financement type ANR, souvent, lorsque des réserves sont émises, elles touchent aussi cet aspect-là. C'est-à-dire, la question qui est posée toujours par les évaluateurs, c'est de savoir comment des travaux individuels vont pouvoir dialoguer, enfin, quel sens ça fait de faire un projet collectif, finalement. Et donc, Sébastien a su inventer des lieux et des moments de discussion régulière qui nous ont permis, je crois, de bien travailler ensemble. Pas sans difficulté, hein, parce qu'on vient de l'air de rien, on vient de traditions disciplinaires qui sont parfois assez différentes, même si comme ça, de l'extérieur, ça ne le paraît pas. Et donc, un jour, il a eu le projet de monter un numéro, de proposer un numéro à une revue sur ce thème-là. Très rapidement, le choix de la revue Genèse s'est imposé du fait à la fois de la tradition pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, histoire et sociologie, quelquefois l'anthropologie, qui caractérisait la revue. Et donc le format du dossier a été... alors le numéro a tout de suite rencontré un certain intérêt de la revue, et le format du dossier s'explique par la politique de la revue. Contrairement à Ethno-Française qui a 11 articles dans ce numéro, je crois, 11 ou 12, là on en a 4, qui sont un peu plus longs, je pense, mais ça correspond au choix de la revue qui est de publier, me semble-t-il, des dossiers de 4, 5 articles, avec parfois des articles variés et des comptes rendus. Alors, il n'a pas été fait d'appel à contribution. Tout de suite, l'idée, ça a été... Alors, je ne sais pas si Genèse a l'habitude des appels à contribution, il faut dire. Ça m'échappe, j'en vois pas passer, mais peut-être que je ne suis pas sur les bonnes listes. Hein. Donc, il y avait ça, c'était une explication, certainement, hein, si la revue n'avait pas cette politique. Mais ça nous allait bien, en fait. Non pas parce qu'on n'aime pas faire des appels à contribution, mais là, on avait pour projet, justement, de réunir un certain nombre d'entre nous et d'ouvrir. Alors, au début, on a sollicité plus de personnes. Hein. Il y avait 3 autres articles qui avaient été proposés et qui ont été finalement rejetés par les évaluateurs de la revue. Et donc finalement, il est resté nous trois, Sébastien, Mélanie et moi, et Sylvie Stenberg, alors qu'on avait sollicité à 2 titres, pour 2 raisons. La première, c'est pas la plus importante, mais elle était indispensable, c'est que Genèse favorise toujours le regard d'historien, d'historienne dans un dossier. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de dossiers qui paraissent sans historien, historienne. Mais ce n'est pas ce qui fait qu'on s'est tourné vers Sylvie Stenberg. Ce qui fait qu'on s'est tourné vers elle, c'était évidemment son travail déjà ancien et auquel qu'elle continue à alimenter sur la bâtardise à l'époque moderne. Et alors, pour moi en particulier, j'imagine aussi pour Sébastien, c'était un travail qui nous paraissait tout à fait important parce que quand on est anthropologue, je ne dis pas que les sociologues font jamais cette expérience-là, hein, mais en tous les cas, il me semble qu'une des caractéristiques de l'anthropologie, si je dois en ajouter à celle que vous avez déjà évoquée, c'est le fait de cultiver les pas de côté. Donc d'essayer de regarder à la fois par l'ethnographie et l'ethnologie dans d'autres sociétés, mais aussi par le recours à l'histoire, et moi qui viens plutôt d'une formation d'historien et qui enseigne dans le cadre de diplômes plutôt tournés vers l'anthropologie historique, c'est une dimension qui me tient beaucoup à cœur. J'ai toujours trouvé que la mobilisation de l'histoire en plus de l'ethnographie dans d'autres sociétés, dans notre contexte culturel, permettait de comprendre ce qu'on avait sous les yeux, en quoi c'était à la fois spécifique et peut-être aussi en quoi cela pouvait faire des échos avec des formes sociales, en l'occurrence familiales, qui pouvaient exister auparavant ou ailleurs. Voilà ce que je pourrais dire à peu près sur la genèse du numéro. Peut-être un petit détail qui n'a pas une importance folle, mais qui a été important pour la genèse de ce numéro en tous les cas, c'est que un jour, on a passé 3 jours dans un endroit, Mélanie Gouarier, Sébastien Roux et moi, c'est pour vous faire toucher du doigt la manière dont on peut travailler en collectif, et on était à la phase où on avait une première version des textes qu'on n'avait pas encore soumis à la revue. Et donc, on se les a fait lire, et on a passé une demi-journée sur chacun de nos textes, dans une ambiance bienveillante, critiquer, soumettre à la question, etc. C'est une astuce, c'est à la fois agréable, parce qu'on n'a pas si souvent que ça l'occasion, à part ici, d'avoir des retours sur ce qu'on écrit directement. Mais c'est aussi une expérience qui fait qu'au moment où on soumet un article à une revue, finalement, il est un peu meilleur certainement que si on n'était pas passé par ce prisme-là. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des papiers que vous avez évoqués. Je ne sais plus ce que je pourrais dire à propos de... Parce qu'au fur et à mesure que je parle, j'oublie ce que j'avais à l'esprit. Pour ce qui est de mon travail sur la gestation pour autrui, ce que l'exercice d'écrire un article a de frustrant, c'est que dans un article... Moi, j'ai toujours appris qu'un article, c'était une idée. Donc voilà, on entend démontrer quelque chose ou explorer une question. Et forcément, ça fait injustice par rapport à la masse de données que vous avez, par rapport aux questions qui vous intéressent sur un terrain particulier. Et du coup, évidemment, quand on lit un article, et quand je lis, ça va, mais j'imagine que quand on lit cet article, on pense tout de suite à tout ce qui manque. On peut se dire, il manque des choses. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le point de vue davantage des femmes porteuses? Pourquoi est-ce qu'on parle de la GPA sans parler finalement d'une partie significative du débat public, à savoir la disponibilité du corps humain, ce qu'une femme peut accepter ou non en termes d'usage de son propre corps? Est-ce qu'elle est autonome lorsqu'elle décide de porter un enfant pour autrui, ou est-ce qu'elle le fait finalement d'une manière contrainte, même si c'est une manière plus ou moins douce ou plus ou moins violente? Et puis j'en passe, donc il y a des tas d'autres questions certainement qui sont absolument absentes de ce travail-là, c'était voulu en fait. C'était à la fois parce que je pense, la difficulté de travailler sur ce type de sujet, c'est une difficulté avec laquelle je suis familier, puisque je cultive un goût assez prononcé pour travailler sur des sujets comme ceux-là qui font débat, même si ça commence un peu à me lasser pour tout dire. Je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir ne pas se laisser toujours emprisonner par la teneur du débat public, lorsqu'on est anthropologue ou sociologue, et de pouvoir revendiquer un espace de liberté intellectuelle qui consiste à travailler sur des aspects qui nous paraissent intéressants, ce qui ne veut pas dire que ce sont les seuls intéressants, mais qui, sur un plan intellectuel, scientifique et personnel, sont ceux sur lesquels on a envie de travailler. Voilà. Et donc ça, c'est une première peut-être réponse à la réserve que j'émettais moi-même. Et une deuxième explication, c'est aussi que pour les besoins du dossier, il fallait que j'axe sur une question qui moi m'était une des questions qui m'était apparue importante sur le terrain que j'avais mené, pour lequel j'avais rencontré effectivement, vous l'avez rappelé, des parents qu'on qualifie d'intentionnel dans la littérature en général, mais aussi des juges. Alors, des juges, en France, des juges qui ont affaire à la GPA, finalement, il n'y en a qu'un. C'est, je parle sous le contrôle de notre juriste ici, mais il n'y en a qu'un. C'est, et je peux dire son nom, puisque c'est le seul qui occupe cette fonction, et il a accepté, et il a accepté de ne pas être anonyme, puisque c'est le seul. Sinon, il ne m'aurait pas rencontré. C'est Laurent Fichot, qui est procureur en charge du service civil à Nantes, et en charge tout particulièrement de l'état civil des Français de l'étranger. Donc il ne s'occupe pas seulement des situations d'enfants nés de GPA à l'étranger, il s'occupe de manière générale de l'état civil des Français de l'étranger. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui directement qu'on s'adresse pour dresser un acte d'état civil, bien sûr, on s'adresse aux officiers d'état civil quand on est à l'étranger et français dans des consulats, des ambassades, ou quand on rentre à l'état civil de son lieu d'habitation. Mais par contre, c'est lui qu'un officier d'état civil saisit lorsqu'en la matière, il y a suspicion de GPA, c'est-à-dire lorsqu'un officier d'état civil est saisi lui-même pour dresser un acte de naissance et qu'il soupçonne une GPA. Donc là, les consignes sont claires. Dès qu'il y a soupçon de GPA, il faut saisir le procureur en charge de ces dossiers, et c'est lui. Voilà. Et donc, où je voulais en venir, je ne sais plus, mais ce que peut-être je pourrais dire, c'est que là, en l'occurrence, ce qui m'a, moi, semblé particulièrement intéressant pour la thématique du dossier, c'était de, à la fois, saisir ce que je comprenais de l'expérience des parents, mais ce que je comprenais aussi de l'expérience des juges, de celui-ci, mais aussi d'autres juges qui ne travaillent pas directement sur la question de la gestation pour autrui, mais qui se sont exprimés tout de même sur la question lorsque je les interviewais plus généralement sur des pratiques de reproduction internationale, comme le recours à une IAD à l'étranger, à une insémination artificielle avec donneur à l'étranger. Voilà, ces juges-là aussi s'exprimaient, c'était des procureurs et des juges du siège. Quelquefois, ils croisent la question de la GPA lorsqu'ils sont saisis, en particulier par des couples d'hommes, qui sollicitent une adoption d'enfants du conjoint. Donc ça, là, c'est des pères qui ne sont pas les pères légaux sur l'état civil étranger de l'enfant, mais qui sollicitent en France, ça a pu arriver, l'adoption de l'enfant de leur conjoint. Alors c'est drôle de parler comme ça, c'est juste un terme juridique. En réalité, bien sûr, ils se vivent tout à fait comme des pères, et ils trouvent d'ailleurs un peu étrange d'avoir, comme ils le disent, à adopter leur propre enfant. Mais en tous les cas, c'est comme cela qu'ils procèdent de temps en temps pour essayer d'obtenir des droits supplémentaires. Et voilà, c'est comme ça que certains des juges que j'ai rencontrés croisent la question de la GPA. Ils ne traitent pas directement de la gestation pour autrui, mais ça fait partie du paysage lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'adoption de l'enfant du conjoint. Voilà ce que je pourrais dire pour alimenter la discussion. Pardon si j'ai été un peu long.
Pas du tout. On va présenter le second dossier, la seconde revue, puis peut-être en essayant ensuite, vous essayer ensuite.